Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Voilà. J'aime bien dans les soirées de louange, dans les séminaires de louange, avoir la possibilité de prêcher parce que je peux prêcher sur quelque chose qui va être en rapport avec la louange. Et c'est pour ça que j'ai gardé la louange pour la fin, le meilleur pour la fin. C'est sûr que le message est important et dans beaucoup d'églises, c'est ce qu'on m'a appris. On va faire la louange en attendant le message. Hein, vous avez déjà entendu ça. On va chanter en attendant. C'est l'air de dire, ben c'est pas très sérieux la louange. Puis enfin le message c'est sérieux. Mais moi je crois que c'est aussi sérieux l'un que l'autre. Hein. Aussi important l'un que l'autre. Voire peut-être même que la louange est plus importante que le message. Je vais mettre les pasteurs à dos. Mais pour Dieu, ben ça lui apporte plus parce que le message, Dieu, il connaît. Hein. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la Bible. Il connaît déjà la réponse, il connaît déjà la solution, il connaît déjà les enseignements. Donc, par contre, quand on l'adore, on vit quelque chose avec lui, on lui exprime quelque chose et c'est très important. Alors, ce soir, je veux vraiment qu'on se réserve du temps pour l'adorer et pour passer un temps ensemble, vraiment, on va pouvoir exprimer. Mais avant cela, j'aimerais vous parler un petit peu de ce Dieu qu'on adore. J'ai l'impression, et c'est un peu l'impression que j'ai ressenti par rapport à cette soirée, que on a malheureusement une mauvaise connaissance de Dieu. On a des conceptions, des concepts erronés, on a des attitudes, on a des images, notre culture nous a influencés, notre éducation nous a influencés. Et puis à cause de ça, on reporte sur Dieu beaucoup de choses qui sont pas justes. Et je pense que c'est la chose qui doit le plus attrister Dieu, c'est qu'on lui donne une mauvaise image, ou qu'on le traite pas comme il est, ou qu'on l'accepte pas comme il est, ou qu'on parle de lui, et puis on dit pas la vérité sur lui. Et je crois que c'est tellement important d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à voir qui il est. Alors avant de faire un petit enseignement, je vais vous montrer un petit PowerPoint, le premier, qui est Dieu. C'est des petits dessins humoristiques. Si quelqu'un peut éteindre là-bas derrière. Parce qu'on verra mieux. Mais c'est des dessins à la fois humoristiques, mais aussi profonds, qui présentent un petit peu Dieu. Et je trouve que ça peut aussi bien nous parler. Alors on commence par ça. Ah oui. Voilà. Dieu est différent de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Même si on est chrétien depuis longtemps, et je crois ce qui est incroyable, c'est, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on va des fois dans une église, dans une réunion, dans un temps, et puis on entend quelque chose sur Dieu, on dit, incroyable, j'avais pas vu ça sur Dieu. J'avais pas compris que Dieu était comme ça. Et ça ouvre notre esprit, ça ouvre notre cœur, parce que tout à coup on réalise qu'il est différent. Voilà. Donc Dieu, il est à la fois ancien, il y a plein de gens qui pensent que Dieu est très très vieux, parce que ça fait très longtemps qu'il est là, mais en même temps il est moderne, il est intéressé par les enfants, les bébés, la vie, par tout ce qui est nouveau. Dieu est toujours en forme, même le lundi matin. Pas comme nous, hein? Et le chat qui dit non, c'est pas déjà l'heure quand même. Dieu n'est jamais ennuyeux. Et malgré que dans certaines églises, c'est parfois ennuyeux, hein? C'est rare, hein, mais c'est juste pour le chat que c'est ennuyeux, qui trouve que, voilà. Mais c'est vrai que certains prédicateurs perdent le fil, perdent leur feuille. Hein, on dit la différence entre trolleybus et un pasteur, vous savez, que le trolleybus, quand il perd le fil, il s'arrête. Voilà. Dieu entend si notre cœur chante juste. Dieu, c'est pas un expert de la Starac qui écoute et qui met des notes à nos chants, et pourtant, mais il regarde surtout la note de notre cœur, si notre cœur sonne en rapport avec ce qu'on est en train de chanter. Alors, Dieu est incorruptible. Vous savez comment on est des fois avec Dieu. Si on écoute nos prières, hein, Seigneur, si tu m'obtiens cette promotion, je te donne tout, même un peu plus d'argent. Qui douterait d'une telle sincérité? Je parle comme ça le CD, ceux qui n'ont pas les images, ils pourront au moins un petit peu comprendre. Hein. Dieu est incorruptible. C'est pas nos prières qui vont l'acheter. Hein. Dieu est ravi par nos louanges. Alors, j'espère que vous lui apporterez autant de joie que cette petite équipe là. Il n'y a pas besoin de micro, de sono et tout un truc, mais si on l'adore ensemble, il va être touché. La création n'est qu'une pâle imitation de la création. La création humaine. Ce dessin a été fait par Alain Auderset pour le président de la Confédération. Il y a 4 ans en arrière, il a eu une rencontre privilégiée avec le président et il lui a fait ce dessin. Et il lui a offert. C'est fort, hein? Cette tâche, c'est le hasard, oui. Mais celle-là, ce n'est pas le hasard. Dieu attend tes nouvelles. On serait étonné, hein? On serait étonné, mais des fois on se dit, oh, ben Dieu, il a pas le temps de s'occuper de moi. Mais c'est vrai, Dieu s'inquiète de toi et de ta vie, de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Donc, n'hésite pas à lui parler. Dieu est toujours prêt à pardonner. C'est bon l'image entre une mère et son enfant. Enfin, c'est vrai que nos enfants font des bêtises et puis des fois, ça nous énerve un peu. Ça peut nous amener à avoir des réactions pas toujours justes, mais Dieu a toujours la bonne réaction, même si on fait des erreurs et des bêtises. Dieu ne se laisse pas impressionner. Écoute Seigneur, j'ai écrit ça, ça va les épater. Même si on chante bien, même si on prêche bien, même si on fait plein de choses extraordinaires, même si on est tous les dimanches à l'église, c'est pas ça qui va impressionner Dieu. Encore une fois, on revient au cœur. Dieu est heureusement plus patient que nous. Combien de fois faut t'expliquer comment utiliser ce dentifrice? Il y a des petites tensions parfois dans la vie pour des détails et qui amènent l'énervement, de la colère, des relations brisées pour peu de choses finalement. Mais Dieu a une patience qui dépasse bien cela. Il ne faut pas trop le comparer aux choses humaines. Dieu sait bien ce qu'il doit faire. Combien de fois on entend les chrétiens prier, Seigneur, j'ai une bonne idée. Tu penses pas que, Seigneur, tu voudrais pas peut-être. Et puis on a l'impression de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais je crois que Dieu, il sait bien ce qu'il doit faire. Et prier, c'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est nous apprendre à faire ce que Dieu veut. Hein? Et ça change tout. Dieu nous tient toujours la main. Ça, c'est aussi un dessin d'Alain Auderset. Je trouve que ça représente pas mal. Dieu est ouvert 24 heures sur 24. C'est bon à savoir, hein, parce que nous, on court tout le temps, on n'a pas le temps, on se dit, ouais, Seigneur, là, j'ai juste 5 minutes, puis j'espère qu'il soit là. Ben, ce qui est incroyable, c'est que si nous, on n'a que 5 minutes, lui, il est là pendant ces 5 minutes qu'on lui donne. Et ça, c'est franchement impressionnant de voir sa disponibilité à notre égard. Dieu est un super jardinier. Je sais pas s'il y a des jardiniers, hein. Mais c'est vrai que ce que Dieu a fait est merveilleux et la nature nous le prouve. Et on le verra encore tout à l'heure. Dieu est toujours branché. Il n'est jamais en panne avec son attel, les piles non plus. Il a toujours des ressources pour brancher. Même avant que l'Internet soit ouvert et existe, il était déjà complètement branché tout le temps, sans cesse. Hein? Et ça, c'est aussi un privilège énorme de réaliser cela. Dieu est le plus grand artiste de tous les temps. Pour ceux qui sont un petit peu artistes, qui font de la musique, qui font de la peinture, qui créent, qui dansent, je crois que ce qui devrait nous inspirer, c'est la création de Dieu, quoi. Dieu est tellement merveilleux. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la campagne, d'avoir des montagnes en face de ma maison, d'avoir des levées de soleil, des couchers de soleil, des paysages. Mais chaque jour, je m'émerveille, dire Seigneur, c'est glorieux ce que tu fais. Je me lasse pas, je me fatigue pas de voir ça. Au contraire, c'est super. Dieu est toujours prêt à écouter, pas comme nous parfois, hein. Mais Dieu nous écoute. C'est des évidences, mais c'est peut-être, des fois il faut être simple, se rappeler des choses évidentes plutôt que d'aller chercher trop loin. Dieu n'est jamais en retard. Et comme disait quelqu'un, il est toujours à l'heure. Nous on a l'impression qu'il est en retard des fois, mais il court pas pour arriver. Il sait qu'il arrivera toujours à temps. Des fois c'est trop tard. On a l'impression que c'est trop tard, mais Dieu va intervenir au bon moment. Dieu nous relève, même quand nous sommes maladroits. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Dieu, il a dit, je sais que tu vas tomber, mais quand tu tomberas, je vais te relever. Quand tu te relèveras, relève-toi et puis va aider tes frères. Hein? Donc, Dieu ne nous promet pas qu'on va jamais tomber, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va nous relever. Et ça, c'est tellement fort aussi. Dieu est mon rafraîchissement. Dieu, il veut nous rafraîchir. Et c'est pas normal qu'on ait une vie chrétienne où on est sec, où on n'a pas de rafraîchissement, on n'a pas de renouvellement. Et c'est pas parce qu'on peut dire, oh, je me souviens qu'en 1972, lors du réveil de machin truc, hein, ça fait longtemps pour avoir bu une dernière fois en 72, hein, si vous, hein, Je voudrais boire plus souvent si vous voulez vivre vraiment. Dieu est lent à la colère. On le chante dans un chant, on le proclame. Mais c'est tellement vrai. Et nous, on a l'impression qu'il se fâche et qu'il se met en colère beaucoup plus vite que nous. Qu'il se met lui-même en colère vraiment, hein. C'est important, ça. Dieu n'est pas sourd. Quand on entend certaines prières dans l'église, dans certaines églises, on croit vraiment qu'il est sourd, hein. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin d'hurler. Dieu nous entend, même si on chuchote, même si on parle dans notre cœur. Il y a des situations où on ne peut pas crier, on ne peut pas parler même à haute voix, mais on crie à Dieu dans notre cœur et Dieu entend. Ouais. Dieu est l'ami des pécheurs. Malgré que parfois l'Église n'a pas toujours la bonne attitude, et puis l'Église, ce n'est pas les autres, c'est nous. Hein. Donc des fois aussi, on regarde les gens un petit peu de travers, mais ce qui est clair, c'est que Dieu les aime et Dieu prend soin d'eux aussi. C'est son cœur. Dieu est mon bouclier, mon défenseur. Il y a des flèches qui nous arrivent souvent, mais Dieu a tout prévu. Encore faut-il prendre ce bouclier du Seigneur et se protéger. Dieu est amour, et Jésus le démontre. On le sait, mais c'est important de se le rappeler, se le dire, le proclamer. Avec quoi est-ce qu'on nourrit nos paroles, nos pensées, notre bouche? Avec des paroles de vérité, avec qui est Dieu? Dieu est le plus grand chirurgien du cœur. Dieu m'a donné un joli t-shirt, hein. Ça lui va très bien. Brillante opération, hein. C'est une opération qu'on voit pas physiquement. On n'a pas de cicatrice et pourtant Dieu va jusqu'au fond de notre cœur pour agir et c'est là qu'on a le plus besoin, je crois. Tout ce qui est visible, on peut travailler d'ailleurs aujourd'hui avec la chirurgie, tout ce qu'on fait, hein. Mais c'est pas ça qui va changer notre cœur. Et les gens qui font beaucoup de chirurgie esthétique, leur cœur, il est encore de plus en plus triste, il est pas épanoui. Dieu est disponible aujourd'hui, maintenant. Ce soir, il est disponible. Vous avez peut-être pris un petit moment pour lui, mais lui, il est disponible dans ce moment-là. Hein. Oui, Dieu le Père t'accueille. Je vais terminer avec celui-là. C'est le Père du Fils prodigue. On parle souvent du Fils prodigue, mais moi je dirais que, comme disait aussi un autre orateur, c'est un Père prodigue. C'est un Père incroyable. Un Père qui nous accueille malgré... qu'on l'ait rejeté. Si on peut remettre la lumière, merci. Donc je pense qu'on a besoin vraiment de changer notre mentalité sur qui est Dieu et comment il est. Dieu, c'est son désir de se faire connaître. C'est son désir de se révéler aux hommes. C'est pour ça qu'il nous a donné la Bible. Et c'est pour ça qu'il y a tant de textes dans la Bible où il nous parle de lui. Encore faut-il les trouver. Moi, j'ai pris l'habitude, depuis que je suis chrétien, de souligner ma Bible, de mettre des couleurs. C'est pas pour éviter les autres versets, mais c'est pour retrouver plus facilement, et surtout, justement, qui est Dieu. Donc, je souligne des couleurs particulières, le caractère de Dieu, la personne de Dieu, tout ce qui présente Dieu, tout ce qui est une carte visite. Et ça me fait une liste incroyable de qui est Dieu. C'est Jean-Claude Chablot qui nous enseignait en disant « Dieu, lui, il a compté, moi j'ai pas compté, mais je pense qu'il est digne de confiance, qu'il y avait 250 noms différents de Dieu dans la Bible. » Vous imaginez 250. Alors c'est pas que Dieu veut se cacher, puis veut changer d'identité pour pas qu'on le reconnaisse, au contraire. C'est que son identité, sa personnalité est tellement grande qu'on n'arrive pas à le décrire avec un mot. C'est pour ça qu'il possède tant de noms, c'est comme un diamant avec toutes les facettes, et chaque facette est un autre reflet. Donc quand il dit qu'il est Dieu, qu'il est Père, qu'il est amour, qu'il est sauveur, etc., c'est une présentation incroyable de qui il est vraiment. Il se présente sous tous ces noms-là pour nous révéler, pour se faire connaître. Donc ne vous limitez pas à Dieu même, Dieu est amour. Puis après, on essaie de comprendre plus ou moins cet amour, mais on ne le comprend pas. Mais si on comprend que l'amour est lié à la compassion, à la fidélité, à la patience... etc., à la miséricorde, à toutes les autres facettes, ça donne une autre dimension à cet amour. Cet amour devient beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et la miséricorde aussi, la patience, tous les aspects du caractère de Dieu sont importants. Et on peut pas choisir, ah ben ça me plaît, ça me plaît pas. Dieu est complet dans ce qu'il est, dans sa personnalité, et on a besoin d'apprendre à le connaître tel qu'il est. Matthieu 11, 27 nous dit que le Père et le Fils sont un, que le Père ne fait rien sans le Fils ne fait rien sans le Père, et que le Fils est venu nous révéler. Donc ça montre déjà l'unité qu'ils ont, la perfection qu'il y a en Dieu, et puis aussi, si on veut le connaître, il faut passer par le Fils. Sans Jésus, c'est impossible de le connaître. c'est impossible de le connaître. Et Jésus s'est révélé déjà dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis sûr. Il y a plein de textes bibliques, de prophéties, de paroles qui présentent Jésus déjà dans l'Ancien Testament, bien avant qu'il soit là. Ça montre la grandeur de Dieu, sa plénitude. Dieu est complet et en tout, et depuis longtemps, il était présent dans toute l'histoire. Alors je vais vous résumer assez rapidement. Dans la Bible, il y a 66 livres. Dans ces 66 livres, il y a une révélation de Jésus qui est donnée dans chacun des livres. Il y a une autre facette qui est donnée. Alors je vous donne juste ces 66 révélations de Jésus. Dans la Genèse, c'est le Créateur divin. Jésus était avec Dieu pour créer. Dans l'Exode, c'est l'agneau libérateur, l'agneau de Pâques qui vient nous libérer. Dans Lévitique, c'est le souverain sacrificateur, celui-même qui s'est offert en sacrifice, qui offre le sacrifice pour nous. Dans les Nombres, il est la nuée, la colonne de nuée, de feu, le jour et la nuit. Il nous conduit. Dans Deutéronome, il est le prophète qui donne la loi et qui guide le peuple, comme Moïse. Dans Josué, il est le conquérant, celui qui a remporté la victoire, qui a gagné sur l'ennemi. Dans Juge, il est notre juge et notre législateur. C'est bon d'avoir un bon juge. Surtout si vous devez passer en jugement, c'est mieux de savoir que le juge, il est correct et qu'il va bien faire les choses. Hein. Dans Ruth, il est notre rédempteur, celui qui nous rachète. Même si on est d'une autre culture, d'un autre pays, même si on a eu des difficultés, Dieu nous rachète. Dans Samuel, il est le prophète digne de confiance. Dans les rois, il est le roi des rois, celui qui règne sur tout. Dans les chroniques, il est celui qui écrit notre nom dans le livre et qui tient l'histoire dans sa main. Dans Esdras, il est le reconstructeur du temple. Dans Néhémie, celui qui reconstruit les murailles de protection de nos vies. Dans Esther, la clé du salut de son peuple. Dans Job, le rédempteur vivant au-delà de nos problèmes. Dans les psaumes, c'est l'objet de notre louange. Dans les proverbes, c'est la sagesse de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, c'est le sage prédicateur. Dans le Cantique des Cantiques, il est notre époux, notre amoureux. Dans Ésaïe, il est le roi élevé et aussi le serviteur souffrant. Dans Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Vous voyez, toutes ces choses, chacun de ces noms, c'est une partie de la caractéristique de Jésus et au travers de Jésus, de Dieu pour nous. Dans Ézéchiel, il est le charbon ardent et la lumière et le feu. Dans Daniel, il est le doigt de Dieu qui écrit contre le mur, mais aussi le quatrième homme dans la fournaise qui délivre Daniel et ses compagnons. Dans Osée, il est un mari fidèle, marié à une femme infidèle. Joël, il est le réveil de la pluie de l'arrière-saison. Dans Amos, il est la justice. Dans Abdias, le juge des nations. Dans Jonas, le grand missionnaire, celui de la seconde chance, le Dieu de la seconde chance, qui redonne une chance à Ninive. Hein. Dans Michée, celui qui aime la justice, qui marche humblement avec son Dieu. Dans Nahum, il est le vengeur des élus de Dieu. Il venge son peuple face à ses ennemis. Dans Habakkuk, il écrit la vision écrite de Dieu. Dans Sophonie, il chante à notre sujet. Vous connaissez ce verset de Sophonie 3:16 où il dit « Dieu a des transports d'allégresse à cause de nous ». Et ça, c'est une image liée aux Juifs. Le peuple juif, vous savez, si vous avez déjà vu les Juifs, c'est les hommes qui dansent. Hein. Et tous sur Rabbi Jacob, je suis sûr. Hein. Les Juifs là qui se donnent la main, qui dansent, ils font des sauts de cabri comme ça. Ils ont pourtant leur chapeau, leur grande veste, leur bibi, leur machin, truc. Et ils dansent comme des fous. C'est les hommes qui montrent l'exemple. Et Dieu prend cette même image-là pour dire qu'ils dansent de joie, qu'ils sautent et qu'ils virevoltent à ton sujet. Ça, c'est un verset qui m'a personnellement bouleversé quand je l'ai lu. Et je le relis chaque fois que je doute de son amour. Hein. Dieu danse de joie pour toi, pour moi. Alors, je continue ma petite liste. Dans Agée, il est le restaurateur. Dans Zacharie, il est la source ouverte de la maison de David. Dans Malachie, le soleil de justice, la guérison des nations. Dans Matthieu, c'est le roi des Juifs. Dans Marc, le serviteur et le libérateur. Dans Luc, le fils de l'homme. Dans Jean, le fils de Dieu. Chaque aspect ne se contredit pas. Au contraire, ça se complète. Ça va ensemble. Dans les Actes, il est le sauveur du monde. Dans Romains, il est la justice de Dieu. Si vous n'avez pas compris la justice de Dieu, lisez les Romains. C'est tellement important de comprendre cet aspect des choses. Dieu est juste. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens, le rocher d'Israël. 2 Corinthiens, le triomphateur qui donne la victoire. Galates, notre liberté, celui qui nous rend libres. Dans Éphésiens, le chef de l'Église. Dans Philippiens, il est notre joie. L'année passée, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé de la joie du Seigneur. Il y a encore des CD là-bas. Je crois que c'est un aspect tellement important qu'on doit retrouver. Cet après-midi, on a eu une rencontre dans notre bureau avec un ami qui venait d'Afrique. On discutait de différentes choses. Et puis on était là en train de discuter. Tout d'un coup, au bout d'un moment, il s'arrête et dit « Mais vous êtes joyeux ?» L'air de dire « C'est bizarre. » En Europe, dans un bureau important, là, des gens joyeux. C'est possible, oui, de travailler en étant joyeux, d'avoir la joie du Seigneur, pas juste parce qu'il faut avoir un chant joyeux où on tape dans les mains. Hein, parce qu'on est en train de servir Dieu et que Dieu est notre joie. Dans Colossiens, il soutient la terre, il maintient la famille. Dans Thessaloniciens 1, c'est la mère nourricière. Dans Thessaloniciens 2, le roi qui revient. Timothée, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Timothée 2, le Dieu multigénérationnel. Dieu travaille pour toutes les générations. Dans Tite, celui qui purifie l'Église. Dans Philémon, celui qui rend le serviteur libre. Dans Hébreux, il est notre perfection, le souverain sacrificateur. Dans Jacques, l'auteur des bonnes œuvres de la foi. Dans 1 Pierre, le consolateur. Dans 2 Pierre, le précieux. Dans 1 Jean, le fidèle. Dans 2 Jean, le berger parfait. Dans 3 Jean, celui qui accueille les étrangers. Incroyable. Et je lis que 66 qualités, parce qu'il y a 66 livres de la Bible. Hein. Et il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Et on arrive, Jude, le fondement de notre foi, et l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre incroyable. On pense que c'est un livre de prédiction un petit peu bizarre, parce que le monde, quand il parle d'Apocalypse, on voit des films de terreur où le monde s'éclate, et puis la terre explose, il y a les volcans, il y a les mers qui débordent, etc. Mais l'Apocalypse, c'est aussi un livre de bonnes nouvelles, merveilleux, qui présente Dieu, qui revient, qui va venir nous chercher, et avec qui on va aller. Et il présente Jésus d'une manière incroyable. C'est celui qui rassemble les adorateurs. C'est celui qui est adoré par toute langue, toute tribu, toute nation. C'est le Dieu exalté, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est le commencement, c'est celui qui était, qui est, qui vient. Jésus, il est tout pour nous, et c'est important de que ça soit pas juste, ah oui, à l'église, je sais, Jésus, il est là, je crois en lui, quoi, mais qu'on le connaisse vraiment, pour qu'on puisse s'enthousiasmer, pour qu'on puisse parler de lui, pour qu'on puisse le chanter, pour qu'on puisse le prier, il faut le connaître, autrement la prière devient barbante. Autrement, la louange devient ennuyeuse. Autrement, le témoignage, c'est « Oh là là, il faut aller évangéliser. Qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir dire ?» Mais si vraiment tu le connais, tu as envie de parler de cet ami, de cette personne qui est extraordinaire, qui a tellement de qualités. Alors, c'est important de le chercher. Et Dieu veut se révéler vraiment à nous. Dieu est un Dieu de grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup de peine à comprendre. Pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, John Gibson nous a donné une petite description de la grâce, petite définition, et je trouvais que c'était bon, je vous la recite. La justice, c'est recevoir ce qu'on mérite. L'injustice, c'est pas recevoir ce qu'on mérite. Mais la grâce, on reçoit pas ce qu'on mérite. Hein? On méritait d'être condamné, on a péché, on est des pécheurs, on fait encore dire, et on reçoit pas ce qu'on mérite. Dieu nous condamne pas, Dieu nous frappe pas, mais Dieu nous relève, Dieu nous pardonne. C'est ça la grâce. Oh, mais c'est pas juste, Seigneur. Non, c'est pas juste. La grâce, c'est plus que la justice. C'est un cadeau. C'est quelque chose d'incroyable. Ma mère, elle a fait de la politique. Elle était députée au canton de Vaud. Elle faisait partie d'un département qui s'appelait la commission des grâces. Parmi les députés, il y a différentes personnes qui ont différents postes. Et il y avait 3 ou 4 députés qui faisaient partie de la commission des grâces. C'est-à-dire qu'ils étudiaient les cas des malfaiteurs, des bandits, des gens qui étaient en prison, qui demandaient grâce. Vous savez que ça existe, hein? Dans la justice, il y a le système de la grâce qui est là. Et parfois, quelquefois, ils demandent, certains prisonniers demandent, accordez-moi une grâce ou accordez-moi une remise de peine, etc. Et cette commission, des hommes, des femmes, regarde le cas, étudie, et puis ils disent oui ou ils disent non. Juste comme ça, d'après ce qu'ils pensent. Mais ça vient d'où cette pensée-là? Ça vient de la Bible, ça vient de la parole de Dieu. Si Dieu n'avait pas accordé sa grâce, jamais il y aurait cette idée-là dans la justice. C'est pas normal. Hein? Quand dans certains pays, quand il y a un président qui est élu, on fait une grande armistice, on libère plein de gens. C'est pas juste. Ils ont reçu 20 ans de prison. Pourquoi on les libère? Mais parce qu'il y a la grâce. Grâce présidentielle, grâce électorale, ou grâce... Ça, c'est encore que des grâces humaines. Hein, c'est un peu par hasard, comme ça, au compte-gouttes, ça arrive. Mais quand c'est la grâce de Dieu, c'est tellement plus. Tellement plus. Dieu est un père. Là aussi, on a tout un secteur, tout un domaine. On pourrait parler une heure de ce secteur-là, de ce point-là. C'est tellement important. Moi, c'est ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai découvert Dieu. C'est cet aspect de la paternité. L'aspect que Dieu n'était pas comme mon père terrestre. C'est pas que mon père terrestre a été mauvais, mais simplement, il y avait une distance. Il manquait une relation profonde. Il manquait une intimité. Il manquait un contact. Et alors qu'avec Dieu, il y a cette relation, il y a cet amour. Et ce père qu'on a vu dans la dernière image, c'est un père parfait. Qui nous aime, et qui nous accueille. Dans l'histoire du fils prodigue, moi je trouve que la chose la plus incroyable, c'est le père. Parce que le père, il libère le fils, il lui donne son héritage, alors que c'est beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop tôt. Il sait très bien qu'il va gaspiller son héritage, il sait très bien qu'il va faire des bêtises avec, parce qu'à 20 ans, quand on est plein d'argent, c'est pas là qu'on fait les meilleures économies, hein. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et le père le sait, et il accepte. Donc il faut avoir un amour et une confiance incroyable pour oser faire ça. Et ce fils, il s'en souvient quand il est dans la dèche, quand il a tout perdu, quand il a fait les pires bêtises, qu'est-ce qu'il se souvient? Il se souvient du cœur de son père. Il dit, waouh, mon père, là, à la maison, si je reviens, bon, je ne vais pas trop lui demander, hein. Et souvent, on est comme ça, quand on revient vers Dieu, on dit, bon, Seigneur, si au moins il m'accepte, si je peux quand même avoir mon petit billet pour le ciel, ça sera déjà bien, hein. Seigneur, je ne ferai plus de bruit, je serai plus méchant à l'église, je donnerai ma dîme. Mais c'est pas ça. Dieu, il veut pas juste que tu reviennes à lui comme ça, discrètement, que tu asseilles au fond de l'église en attendant le ciel. Il veut que tu sois dans ses bras, dans sa relation de fils et de père. Et c'est tellement riche quand on peut aimer ce Dieu comme notre père. Alors moi, je pense que notre plus grand problème, c'est que nous avons un ennemi dans cette vie qui, lui, veut nous donner une fausse image de Dieu. Et ces derniers temps, je relisais Job. Et en lisant Job, je découvre vraiment une tactique terrible de l'ennemi. Et en même temps, le combat dans lequel nous nous trouvons tous. Hein, vous avez lu ce texte dans Job 1, je vous lis à partir du verset 8. L'Éternel dit à Satan, Satan il vient devant Dieu pour lui parler. Hein. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Dieu, il est fier de ses enfants. Vous vous rendez compte? Dieu, il arrive même à dire à Satan, regarde ces chrétiens-là. Regarde mes serviteurs, regarde mes missionnaires, regarde tous ceux qui m'aiment. Et chacun de nous est un témoignage jusque devant Satan. Par notre vie, par notre attitude, par nos prières, par notre foi, on est un témoignage devant les puissances des ténèbres. Mais c'est sûr que c'est pas drôle toujours, parce que justement, Satan, il est pas content du tout de ça. Et voilà ce qu'il dit à Dieu. Satan répondit à l'Éternel. Parce que lui, il a qu'un plan, c'est l'opposé de Dieu. Autant Dieu veut notre bien, Satan veut notre mal. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan, il est rusé, hein. Il va tenter Dieu jusqu'au point de dire, mais essaye voir un petit peu avec celui-là. Hein. Et Dieu, je suis sûr qu'il doit se dire, mais aïe, 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 est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que je vais obtenir encore la louange de cet homme, même s'il n'a pas toutes ses bénédictions? L'Éternel dit à Satan, voilà, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Donc Dieu met une limite. Mais cette limite, ben, elle est bien repoussée par rapport à avant. Et tout comme Job, on est au milieu d'un conflit entre Dieu et Satan. Et nos attitudes, nos réactions penchent d'un côté ou de l'autre et sont un témoignage devant les anges, devant les démons, devant les puissances. Et finalement, Job, malgré qu'il a tout perdu, ben, c'est ce qui se passe, il perd tout. Vous pouvez lire ce texte, hein, dans Job 21-22. Et c'est ce qu'on chante très souvent ces derniers temps, puisque depuis que le chant « Béni soit ton nom » est sorti, on le chante partout. Hein. C'est un super chant, puissant, incroyable, et biblique en plus, c'est bien. T'en chantes des chants bibliques, c'est super. Il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de ma mère, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Je crois que c'est là qu'il y a le nœud du problème, c'est que souvent on attribue des choses injustes à Dieu. C'est la faute de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais Dieu, vous pensez que ça lui faisait plaisir de laisser Satan embêter Job? Non. Mais il savait que c'était une manière de voir son témoignage, de voir sa gloire dans la vie de cet homme au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. Donc c'est facile de chanter, Seigneur, tu donnes et tu reprends. Mais quand Dieu reprend, vraiment, est-ce qu'on va continuer de chanter? Tant qu'il ne nous reprend pas trop, on le fait facilement. Et je crois que c'est pas pour rien que Dieu nous met des mélodies, des chants comme ça dans la tête, parce que il y a des jours où Dieu nous les rappelle. Le Saint-Esprit nous rappelle ces chants. Vous vous souvenez, ça? Hein? Je suis sûr que ça vous arrive souvent. Pas forcément ce chant-là, mais d'autres chants, dans d'autres circonstances. Vous dites, oh là là, si seulement, non, on a envie d'oublier le chant presque. Et pourtant, on l'a chanté combien de fois? On l'a chanté combien de fois et Dieu nous le rappelle au bon moment pour nous dire, je suis là. Même si pour le moment c'est dur à comprendre, je suis là. Et ce chant, il est vrai, il est toujours vrai. Quelqu'un m'a téléphoné une fois, une dame me téléphone, dit « Vous connaissez ce chant, béni soit ton nom, parce que j'ai mon fils qui se marie et puis il aimerait chanter ce chant mariage. Vous pensez quoi, vous ? Pensez qu'on peut chanter ça dans un mariage ? » Ben oui, on peut chanter ça dans un mariage. C'est pas qu'on attend le malheur et puis qu'on se dit « Oh ben là là, si on chante ça, il va arriver des problèmes. » Puis non. Mais qu'on est prêt, on s'engage dans les bons, dans les mauvais jours, dans les moments difficiles. On a chanté ça la semaine dernière dans un enterrement, ce chant aussi. C'est un chant pour toutes les circonstances, c'est un chant de louange, comme Dieu nous demande de le faire. Et c'est pas facile. Est-ce que Job a vécu? Moi, je le prends toujours comme exemple. Je me dis, si j'ai des difficultés, s'il me manque certaines choses, je suis pas au point où tout m'a été enlevé comme Job. N'est-ce pas? Job, c'est l'extrême des extrêmes. Et je crois que ça nous montre jusqu'où un homme peut aller puis continuer de faire confiance à Dieu. Et ce qui est important, regardez ce qu'il dit, il ne pécha pas en attribuant rien d'injuste à Dieu. Je crois que ce que Satan aimerait, c'est qu'on dise, c'est la faute de Dieu. Satan nous attaque, et il nous accuse, il nous condamne, puis il aimerait qu'on mette la faute sur Dieu, alors que c'est Satan. Et beaucoup de chrétiens se font avoir, ils condamnent Dieu, et beaucoup de non-chrétiens, beaucoup de gens refusent Dieu parce qu'ils pensent que ce qui leur arrive vient de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est super important de connaître Dieu pour savoir qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Alors j'essaie d'un peu chercher, on va mettre un autre PowerPoint là, et sur un petit peu la différence entre la voix de Satan et la voix de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence? Et je pense que ça, c'est important de le discerner pour pouvoir anticiper. Quand on ressent quelque chose, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Réfléchissez de quelle manière c'est dit, comment c'est dit et pourquoi c'est dit. Alors on va regarder quelques phrases là. Et puis qui sont toutes inspirées de versets bibliques. Hein? Satan nous détruit, Dieu nous reconstruit. C'est toujours l'opposé. C'est bête, hein? Mais c'est clair. Satan nous envoie les maladies et Dieu nous guérit. Dieu, c'est jamais marqué qu'il envoie des maladies, mais toujours qu'il veut nous guérir, ce que Jésus a fait aussi. Satan veut nous dominer, nous contrôler, c'est son esprit là, et Dieu nous laisse toujours le choix. Il nous laisse toujours libres. Satan veut nous rendre indépendants, mais Dieu veut nous rendre dépendants de lui. Ça fait aussi une grosse différence dans notre vie. Est-ce qu'on veut vivre notre vie tout seul? À ce moment-là, on se met sous la couverture de Satan ou avec Dieu. Satan nous envoie des malédictions, Dieu nous envoie ses bénédictions. La Bible est remplie, il y a des listes incroyables dans Deutéronome, vous pouvez voir la différence, c'est tellement clair. Satan nous rend esclaves, Dieu nous rend libres. Il nous a rendus libres. Satan veut nous rendre orgueilleux, Dieu veut nous rendre humbles. Satan veut tout nous prendre, Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas tout nous prendre. Satan nous décourage, Dieu nous encourage. Il y a des fois, on est découragé, on se dit, mais pourquoi Seigneur ça m'arrive? Vous pensez que ça vient de Dieu? Non. Dieu, il vous donne une parole d'encouragement. Combien il y a de promesses dans la Bible, de paroles dans la Bible qui sont là pour nous encourager? Satan nous pousse à la défaite, Dieu nous offre la victoire. On sait même qu'à la fin du livre, on aura gagné, et on va gagner. Donc c'est trop bête d'abandonner avant la fin, hein, parce qu'on va rester dans la défaite. Satan nous vole, Dieu nous offre ses bienfaits. Satan, il est un voleur, c'est un de ses noms. Satan nous détruit, Dieu nous reconstruit, ça je l'ai déjà dit. Satan nous accuse, Dieu nous pardonne. Alors ça, c'est un de ses pièges favoris, accuser. Combien j'ai prié de fois pour des gens qui étaient accusés, puis ils se rendaient même pas compte d'où ça venait. Ouais, mais je suis accusé par ci, par ça. Ou ils disaient même pas le mot accusé, mais dans leur description, on sentait bien qu'ils étaient sous une accusation. Dieu, c'est pas le juge qui accuse, hein, c'est le juge qui nous pardonne. Satan est infidèle, Dieu est fidèle. C'est pour ça que Dieu a donné l'image aussi du mariage et nous apprend la fidélité. Parce que lui, il est parfaitement fidèle, qu'on peut apprendre à être fidèle à son image. Satan divise, Dieu unit. Chaque fois qu'il y a une division, que ce soit dans un couple, dans une famille, dans une église, c'est pas de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut unir, il veut rassembler, il veut mettre ensemble. Satan nous rend plus de crainte, Dieu nous donne la confiance. La peur, c'est une des armes favorites aussi de l'ennemi. Bon, tellement de chrétiens, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur que, etc. Déjà, juste cette phrase qu'on utilise sans cesse, ben c'est le reflet qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu veut nous donner la confiance. Dieu, Satan nous veut individualistes, mais Dieu nous construit ensemble en église. C'est pour ça qu'il y a l'église. C'est pour qu'on soit ensemble, qu'on ne reste pas tout seul dans notre coin. Parce que quand on est seul, comme disait Vincent Fernandez, un chrétien seul est un chrétien perdu. Hein? C'est clair, c'est net. Seul, tu es perdu. Satan vole notre héritage. C'est une faute d'orthographe, excusez-moi. Mais Dieu nous redonne notre héritage. Satan ne tient pas sa parole, mais Dieu tient sa parole. Quand vous faites des affaires avec quelqu'un qui tient sa parole, ça aide. Hein. Quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et puis finalement au bout il n'y a rien, eh ben vous n'allez pas continuer de travailler avec cette personne. Satan t'entraîne à la haine, Dieu t'entraîne au pardon. Et ça s'apprend aussi, ça se travaille. Il y a des circonstances qui voudraient nous pousser dans la haine et Dieu nous dit pardonne. Ouais mais Seigneur c'est pas juste, je voudrais... Non, pardonne. Hein, les disciples ils ont demandé à Jésus mais combien de fois il faut pardonner? 7 fois, l'air de dire, c'est déjà beaucoup, hein. 7 fois en une journée, quand même, c'est pas possible d'en faire autant. Puis je dis non, 77 fois. C'est pas mal, hein. Satan veut notre mort, Dieu veut nous donner la vie. C'est tellement clair. Tellement clair. C'est pour ça que Jésus dit, je veux un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Ça, c'était le message il y a 2 ans pour ceux qui étaient là. Voilà. Satan nous rejette, mais Dieu nous adopte. L'adoption, c'est fort. C'est plus que la naissance naturelle. Un enfant qui est adopté, il a été choisi et désiré, encore plus. Parce qu'on a été le chercher, on a payé pour l'avoir. On a pris dans notre famille, on lui a donné notre nom, même qu'il venait pas de nous. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous adopte complètement. Satan nous critique, Dieu nous corrige. Il nous corrige dans le bon sens du terme. Il nous reprend pour nous faire aller sur le bon chemin. Satan nous fait douter, Dieu nous donne la foi. Satan nous tente, Dieu nous délivre de la tentation. Il nous demande de prier pour être délivré de la tentation. Satan nous rend égoïstes, Dieu nous apprend le partage. Tout un programme, hein. Satan nous veut solitaires, Dieu nous veut en famille. Satan nous fait tomber, Dieu nous relève. On a vu sur le petit dessin avant. Satan nous ment, Dieu nous dit la vérité. C'est bon de savoir que c'est la vérité. Mais il y a des gens qui croient pas que c'est la vérité. Ils disent, ouais, il faut relativiser, c'est écrit à 1000 ans, il y a des mauvaises traductions, etc., etc. Et on croit plus que c'est la vérité. Et c'est à partir de ce mensonge-là, qu'on a perdu la foi dans notre culture européenne. Hein? Satan veut nous corrompre, Dieu veut nous purifier. Satan veut nous souiller, Dieu veut nous sanctifier. C'est tout un travail. Hein? Autant pour nous souiller que pour nous sanctifier, ça ne vient pas d'une foi. Mais on peut tomber dans la souillure, rester là-dedans ou entrer dans la sanctification. Satan veut nous dominer, nous contrôler. Dieu nous laisse le choix, ça je l'ai déjà admis aussi. Satan nous rend indignes, Dieu nous donne la dignité. Satan nous rend rebelles, Dieu nous apprend la soumission. Je passe vite. Satan nous rend faible, mais Dieu nous rend fort. On le chante dans tellement de chants aussi. Hein? C'est la vérité, c'est ce que Dieu veut. Satan nous condamne, Dieu est miséricordieux. Satan nous rend impurs, Dieu nous purifie. Satan nous déteste, mais Dieu nous aime. C'est la conclusion. Satan nous déteste, mais Dieu nous aime. Si Dieu fait tout ce qu'il fait pour nous, si Dieu se révèle à nous, c'est parce qu'il nous aime. Et son amour, il est inconditionnel. Nous, on a un amour toujours conditionnel. J'avais une petite image, je voulais vous mettre. Dieu vous aime. Et puis, il y avait un petit astérix, il se marquait en dessous, soumis à diverses conditions. Et c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. On pourrait croire que c'est vrai, parce qu'on est tellement habitué à ce genre de contrat dans le monde aujourd'hui, hein. Les petites lettres en bas des contrats, là, qu'on lit pas, puis qu'on comprend rien. Puis, au moment où il y a un problème, c'est les petites lettres qui font foi, hein. Il n'y a pas de condition, l'amour de Dieu. Ouais, mais quand même, tu crois qu'il va quand même me pardonner parce que j'ai commis ce péché-là? Oui. Tu crois qu'il m'aime quand même malgré que... Oui. Son amour est inconditionnel. Ça, c'est la clé. Si on n'est pas conscient de ça, on va pas pouvoir recevoir l'amour de Dieu. Parce qu'autrement, on va toujours vouloir faire des œuvres pour mériter l'amour. Et ça marchera jamais. On ne mérite pas l'amour de Dieu. Qui c'est qui le mérite? Qui c'est qui ici peut dire, moi je le mérite plus que toi? Personne. Moi je le mérite pas plus que toi. C'est pas parce que j'ai le micro ou que je chante que je mérite plus. On a tous été graciés. On a tous reçu l'amour de Dieu. Donc c'est un privilège incroyable, n'est-ce pas? Et c'est ça qui devrait nous motiver dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce qui aujourd'hui me rend libre. Alors, je vais m'arrêter là pour le message. On va entrer dans la louange. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse de la place dans nos cœurs, mais aussi dans la salle. Donc, on va enlever toutes les chaises. On va les empiler dans les deux côtés. Puis, on va profiter. Vous allez pouvoir utiliser tout l'espace pour aller danser, vous asseoir, vous coucher.